Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur les œuvres des miséricordes. Cette liste de 14 œuvres, bien sûr, pour faire une liste, parce qu'on pourrait inclure dans ces 14 œuvres beaucoup, beaucoup plus d'œuvres de miséricorde. C'est une tentative vraiment de résumer tout ce qu'on peut faire à l'autrui quand il est dans la misère. Je vous rappelle que quand on parle d'œuvres de miséricorde, au fond, on parle d'œuvres d'amour. Alors pourquoi pas les appeler des œuvres d'amour? Parce que c'est un amour particulier, c'est un amour de charité, ce n'est pas n'importe quel amour. Ce n'est pas un amour d'amitié, ce n'est pas un amour qu'on peut avoir en famille, c'est un amour, l'amour de Dieu pour nous, l'amour de charité, l'amour qui se donne, qui pardonne, qui est don de soi. C'est ce type d'amour. Alors on pourrait les appeler œuvres de charité. Oui, c'est vrai, mais c'est une charité qui se penche vers la misère de l'autre. Qui se penche vers la misère de l'autre. Pour cela, nous les appelons des œuvres de miséricorde, c'est-à-dire des traductions concrètes de l'amour. Dieu a été le premier à les accomplir, et nous qui ressemblons à Dieu, de par notre naissance, de par notre nature humaine, mais plus encore qui ressemblons au Christ par notre baptême, nous pouvons les accomplir, et plus nous les accomplissons, plus nous ressemblerons au Christ et donc à Dieu. Alors mes frères, nous avons déjà passé en revue très rapidement, de façon très sommaire bien sûr, et il faudrait approfondir beaucoup plus, mais nous avons déjà vu les œuvres de miséricorde corporelles, il y en avait 7, et nous avons commencé les œuvres de miséricorde spirituelles, c'est-à-dire déjà qu'il faut prendre conscience qu'il y a des misères corporelles, matérielles, ça on le sait, mais qu'il y a aussi des misères spirituelles, et qui sont aussi importantes, voire plus importantes. Importante que les misères matérielles, mais un jour on pourra en parler plus longuement. Nous avons vu donc les œuvres conseiller ceux qui sont dans les doutes, enseigner les ignorants, réprimander les pécheurs, et aujourd'hui nous allons parler de l'œuvre de miséricorde qu'est consoler les affligés. Vous voyez, nous avons presque dans un crescendo, j'oserais dire. Vous allez voir, après, avec les deux autres œuvres de miséricorde, nous allons vraiment dans une croissance, dans l'importance de cette œuvre de miséricorde. Consoler les affligés. Si vous regardez la parole de Dieu, si vous regardez les Écritures saintes, vous allez voir que Jérusalem, dans son histoire, a fait l'expérience d'un abandon total, privé de toute consolation de la part des alliés, de ses alliés. Si vous ouvrez par exemple le livre de Lamentations de Jérémie, il commence en disant « Quoi ? Elle est désolée, cette ville, elle est abandonnée, elle n'a plus de consolation. » Elle disait, comme dit le prophète Isaïe, « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Elle a ressenti, Jérusalem, cet abandon. Mais en réalité, bien sûr, le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Le Seigneur est le consolateur de son peuple. Par la bouche du livre du prophète Isaïe, en tout cas du livre d'Isaïe, le Seigneur va dire à plusieurs reprises « Consolez, consolez mon peuple, dites à Jérusalem que son esclavage est terminé, que son service est accompli. Je viendrai comme un pasteur qui paie son troupeau, je porterai dans mes bras la petite brebis, la brebis égarée. » Et où, par exemple, le prophète Isaïe va dire aussi « Dites aux cœurs égarés, dites aux plus pauvres, à ceux qui n'ont rien, le Seigneur vient, il ouvrira un chemin de salut pour les pécheurs, pour les plus exclus, pour ceux qui sont abandonnés, et ils chanteront quel bonheur !» Ou alors, dans une autre page de l'Écriture, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour consoler, pour proclamer une année de consolation, une année de grâce. » Là, autant des passages, des prophéties qui nous parlent de Dieu comme le consolateur de son peuple. Dieu, en effet, a consolé son peuple avec la bonté d'un pasteur, l'affection d'un père, l'ardeur d'un fiancé ou d'un époux, et avec la tendresse d'une mère. Et toutes ces images nous montrent un aspect différent, complémentaire, de l'amour de Dieu pour nous. Dieu est un père, mais Dieu nous aime d'un amour fou. Il est amoureux de l'humanité, de chacun d'entre nous. Dieu a une tendresse de mère. Bien sûr, ce ne sont que des images, parce que les réalités terrestres n'ont, je ne dirais pas qu'elles n'ont rien à voir avec Dieu. Justement, si, elles sont une image, mais une image très frêle. On peut pas découvrir toute la profondeur de l'amour de Dieu avec ces images-là. Mais ça nous aide déjà à imaginer de quel amour Dieu nous aime et comment il veut nous consoler. Et Jésus, à son tour, va être le consolateur d'Israël dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, il dira « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et il donne du courage à ceux qui sont fatigués. Je voudrais vous lire un extrait de l'évangile de Matthieu qui nous aide à comprendre comment Jésus est le consolateur de son peuple. « Venez à moi, vous tous qui peinez, et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » C'est tiré du chapitre 11 de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors mes frères, précisément, le Seigneur est le premier qui nous console, qui vient à notre secours. Consoler quelqu'un, c'est quelque part l'enlever de sa solitude profonde. Consoler, c'est-à-dire celui qui est seul, qui est désolé, qui n'a plus de réponse, qui est presque désespéré ou peut-être désespéré d'être à ses côtés, de lui dire une parole d'encouragement, de rappeler, non pas dans un optimisme naïf, nous avons déjà parlé de ça, non pas en disant « tout va bien se passer ». Non, ce n'est pas ça du tout, pas du tout. Mais c'est de rappeler l'essentiel. Consoler quelqu'un, au fond, c'est rappeler à la personne que Dieu nous aime et de quel amour il nous aime. C'est rappeler à la personne que Dieu ne nous abandonnera jamais, même si nous devons traverser des épreuves. Voilà, ce n'est pas enlever l'épreuve. Ce n'est pas dire à la personne, « bon, tu verras, tout s'arrangera ». Non, nous savons qu'il y a des choses qui sur cette terre ne s'arrangeront pas. Mais le Seigneur est plus grand que tout. La victoire sur la mort que le Christ nous a obtenue nous donne une espérance sans limite. Et nous savons que quoi qu'il arrive, le Seigneur est là, qui est un Père, qui nous aime, qui conduit notre histoire. Et c'est de ces mots dont nous sommes consolés que nous sommes appelés à consoler les autres. Saint Paul, dans sa lettre, la deuxième lettre aux Corinthiens, qui est une lettre de consolation, je vous invite à la lire, mais surtout dans sa première partie, les trois, quatre premiers chapitres. Et au tout premier chapitre, il commence la deuxième lettre aux Corinthiens avec ces mots de consolation. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans notre tribulation, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. » Donc Paul nous rappelle que le Christ est la source de notre consolation. Si nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus, si nous-mêmes nous ne sommes pas imprégnés de cet amour de Dieu, de cette certitude de la providence divine, de la paternité de Dieu, de la victoire du Christ, de la victoire du bien sur le mal, de la présence de l'Esprit-Saint dans l'histoire, si nous-mêmes nous ne sommes pas pétris de cette consolation profonde, alors c'est évident que nous ne pouvons pas consoler les autres, parce qu'il faut d'abord être nourri pour ensuite, bien sûr, pouvoir nourrir les autres. Autrement, on ne pourra pas aller très loin. Alors je vous invite vraiment à réfléchir sur comment le Seigneur nous console déjà, pour qu'à l'occasion, quand on aura besoin de consoler l'autre, on puisse avoir la parole juste qui consolera, qui rappellera qu'ils ne sont pas seuls, mais que Dieu est toujours avec nous. Alors, mes frères, consolez les affligés. C'est vrai que parfois, face à certaines détresses, face surtout, je pense, à certaines questions qui émanent des personnes en détresse, nous n'avons pas de mots. Et c'est normal, ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous n'avons pas été consolés et pour cela, nous ne sommes pas, prêts ou capables de consoler l'autre. Non, ce n'est pas ça. C'est que face à la détresse de l'autre, face aux questions qui peuvent apparaître, nous n'avons pas de mots. Et nous pensons, par le discernement que le Seigneur nous donne, la prudence, hein, la première vertu, le discernement, nous pouvons comprendre que les mots que nous pouvons essayer de dire, vont compliquer encore plus la situation, ne vont pas aider vraiment la personne. Et donc, dans ces cas-là, souvent, notre présence aimante peut déjà être une consolation. Il y a des gens à qui on ne peut rien dire, non pas parce qu'ils ne veulent pas entendre, mais parce que la situation est vraiment grave, nous sentons démunis, nous n'avons pas les mots adaptés, mais notre présence à côté peut consoler, peut montrer à la personne qu'elle n'est pas abandonnée, qu'elle n'est pas laissée pour compte dans cette souffrance-là, mais qu'il y a quelqu'un, évidemment, au bout de compte, c'est Dieu, mais déjà, nous sommes à ses côtés en tant que frères, en tant que sœurs en Christ, ou même en humanité, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, évidemment. Ça marche pour tous les hommes, hein, c'est la même chose pour tous. Et je me rappelle à ces propos d'une interview du pape Benoît XVI, le Vendredi Saint. Il avait accepté ce défi, presque. En tout cas, il avait accepté cette proposition de la télévision italienne de répondre à des questions des personnes du monde entier, quelques questions préparées en avance, de répondre l'après-midi du Vendredi Saint à ces questions. Et il avait une fille qui avait posé la question par rapport à la tragédie de Fukushima au Japon, en disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi Dieu avait permis ceci et cela, pourquoi Dieu avait permis tant de morts, tant de souffrances, des gens qu'elle connaissait. Et le pape, avec beaucoup d'humilité et en même temps beaucoup de lucidité et de sincérité, avait répondu en disant « Je me pose les mêmes questions ». Donc, consoler l'autre et être chrétien, ça ne veut pas dire avoir des réponses à tout. Et après, bien sûr, le pape continue, hein, il ne s'est pas arrêté là, mais il a dit « Je me pose les mêmes questions », mais tout en disant « Notre foi », je résume un peu des mémoires, hein, après on pourra chercher pour être plus sûr des paroles du pape, ça se trouve facilement cette interview, mais des mémoires, je me rappelle que le pape avait continué en disant quelque part que c'est tous les mystères de notre salut qui nous aide à traverser cela et que nous avons la certitude que Jésus nous aime, que Dieu est derrière tout événement et qu'il est capable de faire sortir le bien du mal. Voilà, de faire sortir le bien toujours. Et donc, il consolait par ces paroles-là, sans entrer dans les détails, parce que nous ne pouvons pas, et c'est vrai, nous ne sommes pas maîtres de l'histoire, nous ne pouvons pas dire pourquoi cet événement s'est passé. Ça serait une prétention énorme. Mais nous pouvons rappeler à la personne, justement, c'est la consolation, nous pouvons rappeler à la personne, Dieu est capable de tirer le bien du mal, puisque nous savons déjà que du plus grand mal qui puisse exister, qui a été le mal absolu, qui a été la mort du Fils de Dieu, de l'innocent par excellence, Dieu a fait tirer le plus grand bien, c'est-à-dire le salut du monde, la résurrection, la vie éternelle, le pardon des péchés. Du plus grand mal, il a fait sortir le plus grand bien. Et donc, ça veut dire que même de nos maux quotidiens, si grands, si douloureux soient-ils, le Seigneur peut toujours faire sortir bien. C'est l'art divin par excellence. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que Dieu qui connaît cet art-là. Alors, ce sont des mots qui peuvent consoler les personnes. Et à propos de cette histoire qui est mouvementée, qui est pleine de bouleversements, d'incompréhension, nous avons dans la Bible le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Rien que le mot peut faire peur à beaucoup de monde, mais il n'y a pas question, hein, il n'y a pas de raison. Apocalypse veut dire révélation, mais c'est un livre que le Seigneur a inspiré pour consoler les chrétiens persécutés. Ah bon, si, c'est un livre qui a été inspiré pour consoler les chrétiens persécutés à l'époque par l'Empire romain, parce qu'il montre beaucoup de tragédies, beaucoup de souffrances, ce livre de l'Apocalypse, mais au fond, ce qu'il veut nous dire, c'est que le bien a déjà vaincu. L'agneau immolé a vaincu le dragon, a vaincu la grande bête, selon l'image de l'Apocalypse. L'agneau égorgé a vaincu le dragon, et cette victoire, pour l'instant, dans l'histoire, est cachée. Puisque le Seigneur a laissé un temps pour notre conversion, un temps pour que l'histoire continue à se dérouler, et le temps de l'évangélisation, comme nous disons, ce temps intermédiaire entre la résurrection du Christ et son retour glorieux. Donc il a laissé un temps où nous pouvons avoir l'impression de souffrir beaucoup, ou que le mal prend le dessus parfois. Non, mes frères, nous sommes dans la confiance, nous savons que le Seigneur a déjà vaincu. Et à la fin du livre de l'Apocalypse, il dit... qu'il prépare de nouveaux ciels et une nouvelle terre où il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni douleur, ni maladie, ni vieillesse, rien, rien. Il y aura vraiment le bonheur, la paix, l'amour. Et le Seigneur nous dit, c'est moi-même qui viendrai essuyer les larmes sur tous les visages. C'est vrai, toutes les larmes qui sont versées dans le monde, Dieu ne les oublie pas. Dieu les recueille dans des outres. Et il viendra lui-même, non pas un envoyé, non pas un ange, fut-il le plus beau, le plus puissant des anges. Non, c'est Dieu en personne qui viendra essuyer les larmes de tous les visages. Donc, consoler les affligés, c'est aussi remettre les personnes dans cette dynamique de l'espérance chrétienne. On n'a pas tout pour tout de suite, on n'a pas toutes les réponses maintenant, mais nous mettre dans cette dynamique de l'espérance, qui naît de la foi, bien entendu, de cette certitude profonde de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous et pour l'ensemble de l'humanité.
Alors, Père, justement, vous parlez de cette consolation, cette espérance, cette consolation, mais est-ce que c'est dans nos petits moyens humains que nous détenons aussi ce pouvoir de consoler ? Est-ce que qui console, en fait ?
Effectivement, c'est vrai que parfois on peut penser que qu'il s'agit de techniques, par exemple, techniques de langage, de persuasion. Alors je trouve le mot juste, et c'est moi qui console l'autre. Mais au fond, évidemment, c'est l'Esprit Saint. Si vous lisez le grand discours du Christ après la dernière scène, après qu'il ait lavé les pieds aux disciples, si vous lisez ces discours, c'est le chapitre 13, 14, 15, 16 et 17 de l'évangile de Jean, donc c'est très long. Dans ce dernier discours, Jésus parle du Consolateur, qu'il va envoyer le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui peut venir profondément nous consoler. Pour cela, bien sûr, le Seigneur, il veut qu'on participe de cette œuvre de consolation de l'Esprit Saint. Imaginez-vous notre dignité, la grandeur de notre mission. Donc le Seigneur veut qu'on y participe et il agit à travers nos mots, c'est vrai. Parfois, le Seigneur, et je pense, j'espère en tout cas, que beaucoup d'entre nous ont déjà fait cette expérience, que parfois, on se retrouve dans une situation pour consoler quelqu'un, devant quelqu'un qui nous pose des questions, qui est dans la détresse. Et on pensait ne pas pouvoir trouver les bons mots. Et puis, c'est sorti tout seul. Ça coule des sources, pratiquement. Et on arrive, l'Esprit Saint nous suscite, dit ceci, dit cela. Ou alors, appelle un tel. Et puis, on découvre que telle personne était effectivement traversée une épreuve terrifiante, une épreuve très douloureuse. Et ça faisait longtemps qu'on la voyait pas. Et d'un coup, l'Esprit Saint nous a inspiré. Appelle telle personne. Et on l'appelle et on découvre qu'elle traverse ces moments. Et notre appel a changé la journée, à changer la façon de voir la chose. Vous voyez ? Ou alors, va voir telle personne. Et ça peut nous arriver toujours. Donc, c'est l'Esprit Saint, le grand consolateur. Pour cela, beaucoup plus que les mots qu'on puisse dire, que les techniques, si on veut, pour aider les personnes, beaucoup plus que cela, c'est l'Esprit Saint qu'à travers la parole, attention, pendant qu'on annonce la bonne nouvelle, le kérigme, comme on dit, quand on annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Esprit Saint descend dans notre cœur. Et c'est lui, à l'intérieur de notre cœur, qui nous console. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, va nous dire, c'est l'Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que pendant qu'on écoute la parole, pendant qu'on annonce la bonne nouvelle, celui qui écoute a à l'intérieur de lui l'Esprit Saint qui atteste à son propre esprit qu'il est fils de Dieu, que Dieu l'aime comme un père, qu'il peut faire confiance, qu'il peut s'abandonner à la volonté toute puissante et au chemin du Seigneur qui ne sont pas tout à fait compréhensibles pour nous, vous voyez. Donc effectivement, c'est l'Esprit Saint, le grand consolateur. Et je voudrais conclure cette émission en lisant un extrait de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. C'est le premier écrit chrétien qu'on connaît. C'est le tout premier écrit chrétien avant les évangiles, avant les autres lettres du Nouveau Testament. Le premier écrit chrétien, c'est cette première lettre aux Thessaloniciens où les gens commençaient à se poser des questions sur les morts, sur ceux qui étaient partis, qui nous ont quittés. Et Saint Paul donc écrit, pour dire ce qu'il en est, selon notre foi chrétienne. Et il finit en disant donc « Consolez-vous, réconfortez-vous » dans la traduction que j'ai ici, avec ces propos. Donc alors je vous lis cet extrait du chapitre 4 de la première lettre aux Thessaloniciens. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous, les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car lui-même le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange, à la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous serons emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous.